Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, émission 469, émission érotique.
Comme vous y allez, mon bon Erwan, comme vous y allez.
469e émission de Plume et Pinceau consacrée à la bande dessinée, donc le 9e art sur le 94 MHz avec l'ami Roger. Non, qui s'en fout, qui regarde son téléphone.
Bah oui, parce que j'ai pas eu le temps de tout imprimer. Et avec tout ça, et ben voilà.
Mais vous êtes un homme moderne, vous êtes sur Instagram et tout. Vous TikTokez peut-être même.
Ouais, je TikTok pas.
Vous êtes sûr? Je sais pas s'il y a un secret. 469e émission, aujourd'hui pas d'interview, on a encore quelques chroniques, quelques news. C'est le temps, on est un peu dans les bilans de 2023 et puis il y a Angoulême qui se profile, donc il y a toujours des trucs. Il se passe toujours des trucs quand il y a Angoulême. On en parlera après et puis on commentera quelques prix et puis on aura des tas d'infos et donc quelques chroniques. Et puis de la musique et puis c'est parti. Programmation à Erwan. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky. It's the title. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. 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 I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Gros retour en arrière avec le Run DMC. It's tricky, it's tricky. Quelques news du front de la bande dessinée.
Oui, je vais vous laisser commencer, mon bon Erwan.
Alors, j'ai eu planetebd.com, un site qui est plutôt intéressant pour les amateurs de la bande dessinée, a fait un prix que je trouve assez rigolo par rapport à l'année 2023. Un petit bilan un peu atypique, on va dire. Ils ont appelé ça les ovnis de la BD.
Donc en fait, il récompense des albums qui sont un petit peu des ovnis, mais dans des rubriques en fait qu'ils inventent un petit peu au fur et à mesure. C'est une manière aussi en fait pour eux de faire leur top sous un angle un peu divertissant. Et alors je suis assez fier de moi. J'ai quand même deux albums qui ont été primés dans cette sélection. J'ai l'OVNI 2023 du petit cochon qui n'a pas peur de pisser sur un gros dragon, ce qui est une allusion à Brume.
Non mais est-ce que vous l'avez chroniqué, c'est ça?
Ben oui, les deux albums de Jérôme Pélissier et de Karine Hinder, parus chez Glénat, ont été publiés. Et un la semaine dernière, mon pote.
Vous dites ça parce que je suis vieux, j'ai plus ma tête, je me rappelle de rien.
Non, parce qu'avec vos rififi sur les lapinous, là, vos trucs rigolos avec des morts.
Ratiche Poche, dont j'attends le 7 février la sortie exclusive du numéro 2 de Ratiche Poche aux éditions du Requin Marteau. Écoutez, moi j'en ai commandé une palette, je vais les vendre devant
ça ne fait rire que vous
devant la librairie dont nous tairons le nom. Je vais les vendre parce qu'ils se moquent de moi, ils ont déjà refusé de mettre Ratiche Poche dans leur vitrine. Et ben j'en ai acheté une palette que je vais vendre devant chez eux à la Crier.
Et ben, autre prix, tiens, bien mérité là aussi, celui ben, en fait, de la résurrection la plus aboutie depuis Jésus-Christ a été décerné à Gaston Lagaffe, le tome 22 de Delaffe, que je vous chroniquable dans l'émission précédente.
Chroniquite, je
hein, exactement. Je peux presque aussi aller revendiquer l'OVNI 2023 de la série au long cours qui se conclut 28 ans après avoir débuté, décerné à Carmet McCallum, qui a été scénarisé par Fred Duval depuis longtemps, on dit 28 ans, tu te rends compte?
Et c'était chez Delcourt. Ça fait bien longtemps que vous ne le chroniquez plus. Là.
Non, c'est vrai, ouais, j'ai dû décrocher vers le, je sais plus, le 14e ou 15e, j'avoue. Mais c'était toujours aussi bien. C'était toujours aussi bien dans le style cyberpunk. Ben voilà, quoi, je suis assez content et je trouve ce classement assez rigolo. Et par le choix des catégories, en fait, est assez plaisant. Voilà, moi j'avais une nouvelle un peu rigolote, mais voilà, vous voulez tout de suite casser l'ambiance.
Eh oui, puisque alors j'ai repris pour rendre hommage.
Ça, c'est les vieux, ils aiment bien les nécrologies.
Claude Vistel. Pour rendre hommage à Claude Vistel, je me sers de ce qu'a écrit dans son fil de publication Monsieur Laurent Lefox, que nous connaissons bien, Laurent Lefebvre, qui rend hommage avec un joli dessin en plus, qui rend hommage à Claude Vistel. Alors je vais vous dire ce qu'il nous dit, Laurent, parce que je ne vais pas merder.
Cette dame.
Il m'arracherait la tête. Ce nom ne vous dira sans doute rien, mais celle dont le nom figurait à l'arrière de chaque exemplaire des mythiques revues Lug, Strange, Spécial Strange, Titan, Spidey ou Nova, nous a apporté les séries Marvel en France entre 1969, Fantasque, puis Strange l'année suivante, jusqu'aux années 90. Pour le petit minot qu'il était, les éditions Lug étaient bien plus que de simples traductions dans la langue de Molière. Elles abritaient à Lyon, capitale de la France, dès lors pour moi, les marchands de rêves qui ont bâti une manière tout à fait française et belge, suisse, marocaine ou canadienne de découvrir cet univers avec l'araignée, les fantastiques, les X-Men et tant d'autres. Cette manière francophone de lire Marvel, elle se présentait par l'éclosion chaque mois en kiosque par les créations des splendides couvertures peintes de Jean Frisano, puis de son fils Thomas, son courrier des lecteurs, sa bourse aux échanges. Dans Mustang, autre de leurs revues, ils donnèrent les premiers à des auteurs français, Jean-Yves Mitton et Ciro Tota, pour respectivement, vous allez me le dire,
Photonique
pour Ciro Tota et pour Mitton.
Trois super-héros, il y en a un qui a une des pinces de crabe. Ah putain, je sais plus.
Micros, Cosmo et Epsilon.
Yes, c'est ça.
Alors, les éditions Lug, il conclut enfin, lui ont inspiré le nom de ses fausses éditions Roa, Roisonne, Rennes en breton.
Ouais.
Et voilà, il dit, il renouvelle tous ses remerciements à Claude Vistel et toutes ses pensées pour sa famille et ses proches. Merci Laurent pour cet hommage fouillé et je dirais historique. Vous avez vu toutes les dates, les références et tout.
C'est Laurent Lefebvre, hein, quand tu broches sur le comics.
On ne rigole pas
tu
avec Laurent.
Tu appuies sur play, quoi.
Gloire soit donc rendue.
Non mais il a raison, cette dame a fait, effectivement, par son travail, enchanté nombre d'enfants, dont la mienne. D'ailleurs, j'ai une info autour de Spider-Man. Tiens, le numéro 1 de Amazing Spider-Man qui date de 1963, un exemplaire acheté 12 cents à l'époque, eh ben, était revendu 1,26 million d'euros. Pouf, T'as vu la plus-value ?
C'est dingue. Vous ne l'aviez pas, ça ?
Ah bah non, 1963, c'est une pièce, c'est une pièce rare. Ah bah, t'aurais pu et t'aurais stocké et t'aurais fait un bel investissement. Apparemment, l'album était vraiment en très bon état en plus. Alors, c'est vrai que c'est un album qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un crossover et dedans, t'avais aussi les quatre fantastiques. En fait, Spider-Man, le jeune Spider-Man, le Spider-Man du début. Il a encore, tu sais, ces espèces de toiles sous les bras. Oui. Ditko, au départ, il avait fait ça dessous. Enfin, tu vois, il a encore ce détail qui a très vite disparu parce que c'était pas esthétique finalement. Et bah, il y est, on est vraiment là dans il est créé en 62 en fait, Spider-Man, donc tu vois 63, on est vraiment dans les débuts, et quand même une sacrée plus-value. Alors j'ai découvert aussi en suivant un peu l'actualité qu'en fait c'était pas l'album qui avait de comics qui avait été vendu le plus cher, ça reste Superman qui reste en tête, qui garde leur corps, le numéro 1 de Superman. Alors c'est 1939, hein. C'est vrai que là ça devient encore plus rarissime à trouver.
Là on fait dans l'antiquité.
Ah ouais. 2,34 millions de dollars, voilà. Comme quoi le comics.
Ouais, on soutient notre gueule.
Alors c'est on reconnaît, c'est les vieilles gloires. C'est les vieilles gloires qui par les vieux crabes adulés encore sont.
Les vieux crabes qu'on dit.
Ça se vend
et
bien.
Ça spécule. Hein. Est-ce que ça spécule vraiment... Vous savez, c'est la question que je me pose maintenant quand je vois les ventes.
Est-ce que c'était le mec qui l'avait acheté, moi ? C'est ça que je me demande à chaque fois. Est-ce que c'est le vendeur, c'était le mec qui l'avait acheté ? Ou est-ce que cet album a voyagé de main en main ? Ça se trouve, il s'est retrouvé à un moment chez un bouquiniste, tu sais, et tout.
C'est possible. Et après, je me demande qui achète, moi.
Ah bah là, c'est des vieux richoux fans. Hein. Il y a des gens qui ont des pouvoirs. Il y a des artistes qui peuvent se payer toutes les fantaisies. Renaud collectionnait les BD à un moment, par exemple, tu sais.
Ouais,
il avait aussi les moyens. Il a pu réaliser ses rêves de jeunesse comme ça. Je sais qu'un rappeur américain a acheté, juste pour comparer, quoi, une carte magique, je sais pas combien de millions de dollars, pareil. La génération qui est majoritaire avec un pouvoir d'achat suffisant, ça reste les nôtres. Hein. Donc toutes nos vieilleries d'enfance, on les vit à balles. Maintenant, on peut se faire tous nos plaisirs. Et puis c'est toujours présent, même dans la BD. Regarde, il y avait un Goldorak qui était sorti il y a 2 ans.
Donc, oui, tu vois,
nous sommes au pouvoir. La génération précédente, en 62, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ils sont loin.
Ils sont loin.
C'est des
et ils
bips.
Ont plein de vieux papiers dans leurs culottes. Bon, on est en train de raconter n'importe quoi. Il est plus que temps que, pour rendre hommage à Claude Vistel, quel morceau de musique vous auriez ?
Ah bah c'est un morceau de votre programmation là que hein. The Wise Guys.
Ouais, très très bien.
Jumping Records.
On by the rat, jab it on the ring, lot of jungle, jumping, 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 jumping
forget the dash song goes.
Ah ah, mon bon Roger, vous êtes un sacré forban.
Eh oui, le bon vieux rock'n'roll à la base n'est pas mort. Et tiens, alors un truc par contre, je ne sais pas si comment ça va avoir un avenir, mais est-ce que vous avez entendu parler, je crois que vous en aviez entendu parler, de cette BD de M. Michel Alzéal, dont je n'ignorais tout, Le Monde de Picto, paru aux éditions Paquet.
Alors, j'en avais entendu parler comme d'une curiosité, effectivement. Enfin, des fois, il y a des expériences un peu comme ça, c'est-à-dire vraiment de ramener la BD à avant tout du dessin, en supprimant tous les phylactères. Pif.
Alors, ce n'est pas tout à fait exact. On a toujours des phylactères, mais en lieu et place du texte.
On n'a plus de bulles, en tout cas.
Si, c'est des bulles, mais les pictos sont dans des bulles.
Ah oui, mais les phylactères, c'est des mots.
Ah, pour moi, le phylactère, c'était la bulle. Je croyais que le phylactère, c'était le nom savant de la bulle.
Nous allons googaliser tout ça.
Ouais, on googalisera. En tout cas, pour moi, il reste une bulle. On peut déjà au moins se mettre d'accord. Vous êtes d'accord avec moi, c'est une bulle.
Et non, elle est plutôt carrée.
À l'intérieur, il n'y a plus de texte, il y a des pictos. Et c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge, le monde de Picto, superbement illustré. Très, très ligne claire, hein, comment certains pourraient vous dire « Oh, on dirait du dessin d'infographe, allez savoir, peut-être que ce monsieur est un infographe, mais ce n'est pas un vilain défaut. J'en connais des très bien. » Et c'est un dessin, assez de facture assez simple, ligne claire, en bichromie. Du bleu et différents tons de jaune, ça va jusqu'au rouge maxi, voilà, hein, du jaune, du bleu au jaune ou rouge, pas de vert, pas d'état d'autres couleurs. Et là, vous êtes en train de manger votre chapeau, puisque effectivement, le phylactère, c'est la bulle.
Ouais, c'est ça.
Ouais, oui.
J'étais persuadé que c'était.
Non, le phylactère, c'est le. Enfin, il y a le texte dans le phylactère, et là, il n'y a que des pictos.
Bah oui,
mais là.
Ouais, c'est pour ça que je croyais que c'était les paroles, moi, du coup.
Là où c'est génial, c'est que cette BD n'aura pas besoin ni de traductrice, ni de traducteur. Parce que.
Et c'est surtout que ça te montre vraiment le pouvoir du dessin.
Ben ouais. Et finalement, alors, bon, on va pas rêver, hein, le texte de ce fait, comment le message, comment délivrer dans les phylactères ou dans les bulles, comme vous voulez. Vous allez payer cher vos formants, vous. Comment.
Il a compris l'allusion.
Ah ben oui, attends. Comment la honte. Mais de toute façon, j'allais dire la honte de la chanson française, mais il y a tellement de honte dans la chanson française. Et donc, dans ce monde de Picto, eh ben, il n'y aura jamais besoin ni de traductrice ni de traducteur. Cette BD peut être laissée
dans
les
mains. Elle est universelle.
Voilà, c'est la première pour moi. Alors, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, ça m'apparaît comme étant une des toutes premières ouvrages du 9e art.
En plus, graphiquement, je trouve ça vraiment joli.
Ah, c'est très beau, c'est magnifique. C'est une belle histoire très moderne en plus, parce que c'est pas véritablement, on pourrait se dire, vu le dessin, c'est réservé à un public assez jeune. Pas du tout, parce que on parle quand même des choses de la vie, hein, et les enfants ne naissent pas forcément dans les choux ou dans les roses, pour les filles. Donc de ce fait, on a affaire à un message qui est quand même assez explicite, même si on n'est pas là non plus, on n'est pas dans un fumetti, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ne vous énervez pas. Mais bon, si, je sens que vous vous énervez, parce que vous voyez la couche royale, et donc vous êtes tout chaud.
Non, c'est un conte, mon bon Roger.
C'est un conte au cours duquel sont revisités le mythe du dragon, le mythe de la sirène, le mythe du crapaud et de la grenouille qui peuvent se changer en roi ou reine. On retrouve même la fiancée de Frankenstein, vous avez vu?
Oui, sur la, je l'ai vu à la fin. Ouais.
Avec sa mèche de cheveux blancs.
Ses cheveux qui font comme un cône, comme ça, zébré de blanc.
Ouais, ouais. C'est superbe. C'est totalement génial. J'avais entendu parler de ça, justement, sur Instagram. Comme je suis vieux, je m'étais dépêché d'oublier.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a une bulle qui vous a posé problème, du coup?
Non, en fait, non seulement il n'y a pas de bulles qui vont. Alors, la question que je me suis posée, c'est que, par exemple, si on donne cette BD-là à un gamin, est-ce qu'il va interpréter toutes les icônes exactement comme une personne adulte, par exemple? Ne sais pas, je dois avouer que je ne sais pas. Ça serait intéressant, justement. Et là où c'est très drôle, c'est que à un moment donné, le cheval, parce qu'on est dans un conte, mais le monde est moderne. Hein, on voit la tour Eiffel, il y a des ponts ouvragés en métal. Et à un moment donné, il est dans le cheval. Et on a une pancarte avec un petit picto qui vous indique le ton. C'est-à-dire que là, on le voit galoper. Et c'est marqué galoper pendant dans deux cases, attention, danger de pierre. Chute de pierre. Deux cases plus tard, il s'arrête pisser et il y a des pierres qui risquent de lui tomber sur la gueule.
Ouais, c'est pas mal.
C'est fabuleux, hein.
Ouais, c'est un exercice intéressant, en tout cas.
Ah ouais, c'est carrément révolutionnaire. Et il y a même de l'humour. À un moment donné, on le voit, il pisse. Et puis, on a une bulle avec un picto. Et c'est un espèce d'ensemble ovale avec des petits signes qui indiquent de l'eau. Et comme il y a des pierres qui lui tombent sur la gueule, le picto, là, se déforme et ressemble à une grosse bouse parce qu'il est en train de se pisser sur le froc. Et
c'est sympa.
C'est bourré d'humour et j'ai découvert.
Je vais vous l'emprunter, je pense.
Et j'ai découvert ça à la librairie dont nous tairons le nom grâce.
Alors vous voyez qu'il y a du bien chez nous aussi.
Ouais, mais c'est pas lui qui me l'a vendu, c'est pas le patron.
Ah, c'est pour ça.
Ouais, c'est pour ça. C'est le vendeur Pierre, très très bien, Pierre de bons conseils et très efficace parce que je suis reparti avec le picto sous le bras en attendant.
Il a abusé de la crédulité d'une personne âgée comme ça.
C'est un peu dégueulasse. Tout ça pour se faire sa prime. Il a
Le libéralisme nous tuera.
Il m'a vendu la Révolution française, que déjà deux tomes déjà parus. énorme. Il est redoutable. Ouais,
et vous voulez savoir la fin de l'histoire? Je vous la spoil. Hein. On leur coupe la tête. À eux aussi.
On lui coupe la tête au roi. Ça s'appelle donc Le monde de Picto. On doit ça au talent et à l'originalité, à un travail hyper original de monsieur Michel Alzéal, et c'est aux éditions Paquet.
Très bien, merci Roger. Sans transition, hein, vraiment sans transition, Marie Bardio-Vaillante, j'espère que je le dis bien, a un doctorat en histoire contemporaine et elle s'intéresse aussi à la bande dessinée. Depuis 2011, et elle nous propose un album qui revient sur un événement. Vous savez, il y a des fois des gens qui sont vraiment des quidam et qui, par les circonstances, se retrouvent des acteurs de l'histoire. Et est-ce que tu connais Marie-Claire Chevalier ?
Nope.
Eh bien, c'est finalement un personnage historique important, alors que vraiment c'est qu'une petite gamine mineure à son époque, en 1972, et elle va rentrer dans l'histoire parce que c'est elle qui est au cœur du procès de Bobigny. En fait, Marie Bardio-Vaillante nous amène à revivre ce fameux procès. Marie-Claire est comparée devant la justice parce qu'elle a enfreint une loi de 1920 qui punit toute simple incitation à l'avortement et à la propagande anticonceptuelle, considère ça comme un délit et vous envoie donc au correctionnel. Or, Marie-Claire a avorté et ça s'est su. Et donc, elle va en procès. Et elle va rentrer dans l'histoire parce que les circonstances qui l'ont amenée finalement à l'avortement sont terribles. Elle fricotait un peu. Enfin, elle a cédé à une invitation d'un type qui, de son quartier, un beau gars, tu sais, en mobylette, voiture, etc., blouson noir un petit peu, tu vois.
Dans la poche.
Hein, voilà. L'a emmené en soirée. Et en fait, on a profité pour l'agresser, quoi, sexuellement, mais la violer, disons-le carrément. Et elle tombe enceinte et elle veut pas garder cet enfant et sa mère va l'aider à avorter avec des voisines et des contacts qu'elle a. Et en fait, cet affreux connard va se faire arrêter par la police pour vol de bagnole et pour s'en sortir, il balance Marie-Claire, quoi.
Oh putain, lui, il a tout pour plaire.
Ah, il a tout pour plaire, vraiment une merde, quoi. Vraiment une merde. Vous saurez son nom, finalement, en lisant cette histoire. Et donc, Marie-Claire va être en procès et elle va avoir pour avocate Madame Halimi, on va dire vraiment madame, parce que qui va la défendre et qui va donner tout le retentissement que cette histoire mérite, puisque en fait c'est l'histoire de d'une loi stupide de 1920 qui contraint en 1972 des femmes à avorter clandestinement dans les conditions qu'on imagine, quoi, parce que en 1920 il fallait relancer la natalité, classes creuses.
Ouais, Macron, est-ce qu'il va être...
C'est marrant, hein, c'est marrant que cet album sorte en ce moment-là où effectivement il y a des interrogations, mais quasi mondiales, hein, sur la natalité. C'est vraiment drôle.
Ça nous interroge d'autant plus que ça replace, c'est replacer les femmes à la maison, vous allez pondre des gosses, et de la part d'une personne qui n'en a pas fait en plus, qui n'a pas fait de gosses, donc ça me paraît un peu...
Ouais. Enfin, moi j'en ai pas fait non plus, mais...
Vous n'êtes pas là à inciter à la natalité comme nous le fait notre président désormais.
Non, mais en fait, si... J'essaye d'être positif. Si au moins ceux qui veulent en faire reçoivent des coups de pouce, je sais pas, fiscal, parce que ça coûte des gamins.
Fiscaux, on va vous accuser de parler au moins, comme y a un peu ministre des Affaires étrangères.
S'il y a un petit bout de geste social à cette occasion-là. Après, ça doit rester un choix. Mais de toute façon, l'avortement va être sacralisé. Donc c'est un peu paradoxal, c'est ça que tu veux dire? Entre les deux, d'un côté, on sacralise bien, on protège bien, on garantit bien l'accès à l'avortement. Et est-ce que c'est incompatible avec une politique nataliste?
J'en sais rien. Non, pas incompatible. La preuve, puisque c'est ce que essaye de faire, c'est du en même temps.
Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est un procès historique et c'est vraiment le cœur de cette bande dessinée. Et il y a des moments qui sont vraiment très beaux dans cette BD, notamment dans la relation finalement de Marie-Claire avec sa mère, qui vraiment, tu vois, c'est une nana, le bonhomme s'est barré, elle a des filles qu'elle essaye d'élever le mieux qu'elle peut dans une banlieue des années 70, tu sais, c'est du prolo, quoi.
Ouais.
Et c'est les moments d'intimité entre ces deux personnages qui sont vraiment les plus beaux moments. Après, la partie du procès, ben finalement... ça donne l'occasion de réentendre toutes les voix qui sont venues défendre Marie-Claire et expliquer qu'elle était victime, vraiment victime, et qu'elle ne devait pas se retrouver là, qu'il n'y avait aucune raison qu'elle se retrouve là. Rocard, par exemple. Là, c'est la partie, on va dire, qui peut avoir un intérêt, une piqûre de rappel de qu'est-ce que c'est l'avortement. Mais moi, c'est vraiment ces moments d'intimité entre les deux personnages, de la mère et de la fille, que j'ai trouvé les plus beaux. Et puis, je me suis demandé un truc. Ça, c'est peut-être... J'aurais bien aimé presque en savoir plus sur le juge aussi. Le juge qui chapeaute toute cette affaire et qui va trancher, donc, en acquittant Marie-Claire. Vraiment, comment il a vécu ça? Tu le vois un petit peu, puisque tu le vois dans le procès, dans ses réactions, ses commentaires au débat qui se passe. Parce que le procureur, lui, il mène l'accusation. Donc, ça fight avec l'ami Salimi et tous ses témoins. Mais j'aurais bien aimé, notamment au moment où il prend la décision, quoi. Ça, j'aurais bien aimé. Mais je ne sais pas s'il a laissé une trace et un témoignage, juge-là a commenté.
Le secret de l'instruction ouais, peut-être. Il ne peut pas trop la ramener. Quand vous êtes en retraite, peut-être qu'effectivement, en retraite, il doit être mort.
Ouais.
Mais je pense que, en retraite, vous avez le droit de dire que. Mais les arguments de Gisèle Halimi ont dû être redoutables. C'est une maîtresse toute petite déjà.
Et tu découvres aussi pourquoi elle a cette fougue féministe aussi, chevillée au corps. Ouais,
elle a toujours refusé la place de femme qu'on voulait lui imposer, etc.
Originaire de Tunisie dans les années 30-40. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est vraiment passionnant, en fait. C'est vraiment passionnant, ce Bobigny de 1972, donc de Marie Bardiot-Vaillant au scénario, et la dessinatrice c'est Clore Morel, qui a un beau dessin. Je trouve cet album très réussi. Et c'est marrant que ça sorte maintenant.
Ça c'est
aux éditions Glénat, Bobigny 1972. Allez, un petit roman graphique pour petite piqûre de rappel sur comment on en est arrivé à la loi Veil, etc. C'est vrai que en plus dans le monde actuel, ça peut pas faire de mal.
Noir et
c'est
blanc.
Sans doute aussi pour ça. Non, il y a de la couleur.
J'ai parlé de roman graphique, j'ai souvent le.
Ah non, il y a de la couleur. Hop. Alors je dis pas que ça chouette. On est dans le chatoiement, mais. Il y a de la couleur, notamment des beaux orangés. Il y a toujours un côté comme ça, un peu sépia, avec aussi du gros grain, enfin comment ça s'appelle, de la grosse trame. tu sais, comme on avait vu dans Altamon, etc. C'est vraiment très chouette. Graphiquement, et puis surtout, c'est puissant, quoi. L'histoire est puissante.
Donc, c'était qui, alors, les autrices ?
Marie Bardio-Vaiente, comme ça, si je l'ai mal dit, je l'aurais au moins dit mal dit, mais 15 fois. et Clore Morel au dessin, Bobigny 72, aux éditions Glénat. Interlude musical,
yes.
Les parapluies, enfin, The Umbrellas Gone. Ce morceau me rappelle mes vertes années et Bernard Lenoir, je ne sais pas pourquoi. The Umbrellas Gone, j'adore ce morceau de Britpop.
Oui. C'est un petit côté vieillot, comme un vieillot ouais, smashouillé.
Vous êtes un sacré forban.
Des sorcières et
attention,
des
moment promotionnel, pas du tout intéressé.
Pas
attention,
du tout,
attention.
Absolument pas. Et le fait que je parle d'un ouvrage de ma fiancée, Elisabeth, elle ne sait pas qu'elle est ma fiancée. Mais je finirai un jour par lui l'annoncer. D'ailleurs, je me suis battu dans la librairie dont nous tairons le nom, parce que, comment dirais-je, l'excellent vendeur, néanmoins, qui arrive à me refourguer plein de trucs, il veut pas que les gens, quand c'est des garçons, ils achètent des sorcières et des hommes, par exemple. C'est un grand malade. Il dit non, c'est ma fiancée, personne touchera ses livres. Vous voyez le boulot. Et j'ai réussi à le prendre dans le rayonnage, sans avoir la main qui tremble. Et,
l'important, c'est ça.
Voilà. Et sans qu'il s'en aperçusse. Est-ce que pour moi, alors c'est un ouvrage écrit et réalisé à quatre mains, Jonathan Kuntz et Elisabeth Peach.
War and Peace.
Ouais, War and Peace, que l'on trouve également sur Instagram. Ça, c'est un recueil paru aux éditions First. Après, tout à l'heure, si on a le temps, je parlerai de Salut la Terre, ou peut-être dans la foulée, c'est vous le patron, vous me direz, paru aux éditions Les Requins Marteaux pour...
Ça dépend. Tu danses.
Et regardez, et moi j'ai une dédicace d'Elisabeth Peach et c'est marqué To Roger.
Alors moi Big j'ai une photo d'Elisabeth Peach. J'ai une photo moi.
Et ben vous la mettrez sur le blog justement. Une très
peut-être.
Très
peut-être.
Pour moi, les dernières punk, ce sont les filles. Et j'en veux pour
Riot
preuve...
Girl.
Riot Girl, je dirais. Il n'y a plus qu'elles qui ont véritablement, en tout cas, je trouve, dans l'édition, en ce moment, qui ont véritablement, qui arrachent la gueule, quoi. Là, Elisabeth Peach, je vous ai déjà parlé de Fun Girl, que j'ai prêté à... Rappelez, à Jean Sully, un ancien cascadeur. Il a été barman, cascadeur, il a bossé dans tous les endroits les plus pourris, il a dormi dehors pendant des années, enfin une bête, ce qu'il a fait, même une bête
chien,
l'aurait pas
il
fait.
Il parle aux chiens,
il parle aux chiens, il parle aux chiens. Et lorsque je lui ai prêté Fun Girl, il m'a dit c'est un petit peu trash, parfois un petit peu. Vous voyez, genre, il a fait sa bourgeoise de l'école Stanislas, c'est vous dire. Et je l'ai dit d'ailleurs à Elisabeth Peach, elle a bien ri, elle a rosé, le rose lui va très bien au teint.
Parce que vous parlez anglais, vous.
Oui, j'arrive à lui dire deux, trois mots en anglais. D'ailleurs, on parlera de votre traduction lorsqu'on parle, on diffusera l'interview que vous cachez.
Non, mais oui, on s'est livré à quel début, là, une grande première. On a rencontré une personne qui ne parlait que anglais, qui valait le coup d'être rencontré. On avait vraiment.
Et vous a félicité pour votre.
Et on a donc pratiquer la langue de Shakespeare.
Ouais,
c'était
on
cosmique.
A bien ri. Allez, tiens, un petit exemple. Alors, c'est quoi? Alors, une des sorcières et des hommes, c'est bien parce que moi, j'avais découvert ça dans Instagram, mais je ne savais pas d'où venait chaque petit personnage. En fait, il y a des personnages récurrents, un petit fantôme. C'est un petit garçon très pauvre. C'est un petit garçon très pauvre qui finit dans un laboratoire, en fait. Ses parents sont obligés de le vendre parce que y a pas de sous. Hein, ils ont pas de soupe, il finit écrasé dans un laboratoire et ça devient un petit fantôme. Et c'est un petit fantôme qu'on va suivre. Y a la sorcière que l'on voit, très gironde, une petite sorcière qui prend naissance grâce à des incantations réalisées par des gamines de 6-7 ans. Vous voyez le genre. C'est un petit peu bizarre et c'est trash. Et en plus de ça, tout ça est servi par un dessin minimaliste comme j'adore. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens...
Vous n'aimez pas quand il y a trop de traits.
Ouais, quand il y a trop de traits, pour moi, c'est du Mozart. Et ce que j'aime bien, c'est quand effectivement on va droit au gag, quoi.
Du Ramon, quoi.
Voilà,
un
Ramon.
Toujours le même truc, quoi.
Hey, oh, let's go. Et donc, vous voyez, on a la naissance du petit garçon, enfin la naissance du petit garçon fantôme, et on voit le petit garçon fantôme qui essaye de frapper à la fenêtre de ses parents, et ses parents qui disent quel dommage que notre fils soit mort. Eh ben, on a qu'à en faire un autre. Allez, enfourne-moi. Et on voit le petit garçon fantôme à la fenêtre qui dit non. Non, horrifié. Voilà, c'est Elisabeth Peach. Elisabeth Peach, elle, comment dirais-je, elle ne fait pas dans la dentelle. Une journée, une vie de chien, vous savez ce que c'est? Une journée de chien classique, c'est une journée dans la vie de chien, c'est attendre que le temps passe, renifler des derrières et faire une conférence sur la physique quantique. C'est énorme. Et il y a plein donc de personnages, un robot amoureux.
Alors c'est des strips.
C'est des strips en quatre parts. En quatre cases,
ouais.
Format pif poche, un gros
carré,
pif poche, un gros pif poche,
cubique,
cubique. Et je vous dis, il y a des personnages comme ça récurrents, la mort qui était fort bien représentée. Elle se déplace en skate. elle adore se déplacer en skate. Mon épisode préféré de la mort dans cet album-là, c'est la mort débarque en skate à côté de gamins qui font du skate. Et la mort dit à un gamin, « Ah ah, t'es pas capable de faire un jump flip au-dessus de la piscine remplie d'alligators. » Et le gamin, « Tu vas voir ce que c'est, vieux crouton. » Et la mort dit, « J'adore mon métier.
» J'avais anticipé la chute.
Ouais, des sorcières et des hommes. Donc, à quatre mains, elle a réalisé ça avec Jonathan Kuntz. Mais bon, je vais le faire l'autre en même temps. Alors... Je vais faire l'autre en même temps parce que ouais. Vous m'avez dit que j'avais le temps. Alors on va prendre notre
prenez.
Et il y a un chien parmi les personnages aussi. Il y a un chien et on voit un des épisodes où il dit ouais j'en ai marre d'être un bon chien et on le voit sur des motos avec des Hells accompagné de Hells Angels d'autres chiens qu'on en marre. Il se fait tatouer Thug is life et après on le voit débarquer dans un parc et chiquer un gamin, déchiqueter un gamin. Voilà, ça c'est des sorcières et des hommes aux éditions First. Et il y a également Salut la Terre, parce que les Requins Marteaux ont édité donc Fun Girl, dont je parlais tout à l'heure, hein, et ils ont édité également Vulva Viking. Vulva Viking, c'est l'histoire d'une jeune femme, elle a un problème, comment dirais-je, son vagin peut vous bouffer le visage.
C'est super, Roger.
C'est clair que.
Et là, c'est super.
Dit comme ça, c'est un peu trash. Cet ouvrage-là, par contre, dans Salut la Terre, ça n'a rien à voir.
On est considéré comme une émission familiale ou pas?
Je sais pas. Non, pas à une heure et demie. À une heure et demie, où les gosses dorment, où ils sont à l'école.
Ah, tout va bien, alors allez-y.
Donc, tout va bien. Dans Salut la Terre, par contre, c'est un ouvrage à vocation beaucoup plus écologiste. C'est beaucoup plus.
Oui,
mignon.
Oui, on imagine.
Bah oui.
Qu'est-ce qu'a fait la Terre? Elle vous pisse dessus?
Non, on voit une petite épisode. Alors pareil, hein, des gags en une page, mais là on n'est plus dans le format carré. On
ah
est
oui, il y a
format,
six cases.
Il y a six cases, hein, dans le format rectangulaire, plus haut que large. Et ça nous donne ça, deux fleurs qui se causent. Salut beauté, ça va être une belle journée. Ouais, c'est ça, abruti, dit une fleur toute vilaine qui apparaît. T'es qu'une ratée. Rappelle-toi quand tu... Quick! Elle se fait couper, pas moyen de s'incruster dans mon jardin et de pourrir l'ambiance, dit le jardinier. Mmh. Vous voyez, c'est beaucoup plus mignon puisque les vilains se font tuer. Mais bon, tout ça nous rappelle quand même qu'encore une fois, Elisabeth Peach, c'est une punk et que les choses ne se passent pas toujours comme chez Tintin, comme chez Mickey, comme vous voyez ce que je veux dire quoi. Mmh. Ça reste encore un petit peu trash, mais c'est un tout petit peu mignon, ça un peu plus mignon. Ça s'appelle Salut la Terre et c'est un ode à la Terre qui disparaît et on voit la Terre qui va voir un médecin et dit ah je me sens pas bien.
J'ai chaud.
Ouais non puis le médecin lui dit il l'observe à la loupe et tout ah vous avez un parasite. Ah bon, j'ai quoi ? Vous avez des terriens sur la Terre. Et vous avez ce qu'on appelle des êtres humains. Et il faut s'en débarrasser au plus vite. Salut la Terre, War and Peace. La même bande que War and Peace. Donc, des sorcières et des hommes. Fun Girl, je vous ai dit. Et Vulva Viking. Avec ça, vous avez l'eau de ce qui est disponible en France, traduit en français.
Et un casier judiciaire gratuit.
Et je ne désespère pas que nous puissions, par téléphone, organiser une interview. En tout cas, j'ai
En anglais
chopé... Ouais, alors en anglais, c'est pour ça qu'il faudra que nous ayons la complicité de... Vous connaissez une jeune femme qui est professeure d'anglais.
Oui. Ah oui, tu veux la débaucher en traductrice ?
Bah écoutez.
Elle aime les bières, donc il y a moyen peut-être de trouver un
deal. Eh ben voilà, si elle aime la bière...
Elle aime les boissons pétillantes.
Si elle nous permet d'interviewer Elisabeth Peach, allez, moi je suis prêt à lui offrir le champagne.
Carole, tu as entendu. sans transition, alors moi je vous emmène sur un biopic, mais un biopic vraiment charmant. Je vous propose d'en découvrir plus sur Audrey Hepburn. C'est un peu une star iconique et particulière, je trouve, dans le panthéon des stars hollywoodiennes. Parce que c'est pas la plantureuse à la Marilyn Monroe qu'on a là. Avec Audrey Hepburn, c'est une jeune femme pétillante, avec un regard vraiment angélique. Et c'est un peu l'idée de cet album. Audrey Hepburn, un ange aux yeux de faon. Jean-Luc Cornette, si tu te souviens bien d'une série qu'il avait faite, tu verras un petit peu le genre.
C'est un vieux, ça,
au centre du nowhere, tu te souviens de ça.
C'est excellent.
Ouais. Voilà, c'est lui qui est au scénario de ce biopic, donc en fait qui est à l'adaptation de la vie d'Audrey Hepburn. Et alors en dessin, il a trouvé Agnese Innocente, une Italienne. Je connaissais pas du tout puisque c'est sa première parution.
Moi, je le connais comme dessinateur. Et là, c'est pas lui qui dessine.
Non. Il a fait appel à une transalpine, Agnese Innocente. J'espère que je le dis bien. Elle est connue apparemment en Italie. C'est son premier album en France. Alors au début, je dois avouer que j'étais un peu surpris parce que j'étais parasité en fait par une autre série. Je sais pas si tu te souviens d'un truc qui s'appelait Tiffany chez Delcourt, où justement le personnage de la voleuse était très inspiré de Audrey Hepburn. Tiffany's, tu vois. Tu vois la référence. Il avait une très belle ligne claire, ce dessinateur-là, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. Et en fait, je m'attendais à Audrey Hepburn, je l'avais associé finalement à cette ligne claire, à cette charmante ligne claire. Et là, c'est vraiment pas le parti et le dessin de Agnese Innocente. Donc au début, j'étais un peu déstabilisé, mais en fait, je m'y suis fait. Et surtout, par moments, notamment sur la couverture, je trouve que notre Audrey Hepburn est vraiment magnifiée. Et son regard, notamment, est vraiment très envoûtant. Je vous ai mis la couverture en face. Là, vous voyez, vraiment, on voit bien les yeux de faon de ce personnage. Donc, on va suivre sa vie, en fait. C'est tout simple, hein, de sa naissance en Belgique, de sa jeunesse, liée à la noblesse. Moi, j'ai découvert ça, la noblesse anglaise. Son papa, fasciste. Bah, tiens. Audrey, qui donc, vivant en Belgique, va vivre l'occupation, va rentrer dans la résistance, elle a 15 ans, et puis va apprendre la danse, va se lancer dans la comédie pour des raisons de santé, et va percer à Hollywood, avec par exemple quand même un Oscar pour la meilleure actrice dans le chef-d'œuvre de William Wheeler, Vacances romaines en 53, où elle va côtoyer Gregory Peck. Et en fait, tu vas découvrir donc toute la vie de cette femme, cette vie, sa vie personnelle. Vraiment, elle est pétillante, quoi, dans la vie quotidienne. Tu vas découvrir son désir d'enfant, ses tribulations amoureuses, et puis aussi, t'as un coup d'œil sur le cinéma hollywoodien, vraiment de la grande période, j'ai envie de te dire. Tu vas découvrir comme Humphrey Bogart est un connard, par exemple, par des années de tournage et tout ça. Et c'est vraiment un très chouette biopic, servi par un beau dessin, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant, notamment parce que en fait, arrivée au sommet dans les années 70, elle a vraiment arrêté sa carrière, donc tu vas aussi comprendre pourquoi. Enfin, tu découvres aussi la femme, et tu découvres aussi que sa générosité, sa droiture, et tu vas découvrir qu'elle va se lancer après avoir interrompu sa carrière cinématographique, par exemple, en faveur de l'UNICEF, etc., etc. Vraiment, jusqu'à la fin de sa vie, cette femme a été admirable et a aussi beaucoup, je pense, contribué à perturber les canons qu'avait Hollywood, parce que Marilyn a beaucoup souffert justement de son physique plantureux. Avec Audrey Hepburn, on a une femme qui n'est pas forcément plantureuse, elle est plutôt longiligne, et qui a du tempérament et qui va, elle, sonner lors de la rébellion. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment un très très bel album. Roger est plongé dedans.
Oui, parce que, comment dirais-je, vous savez, je regarde toujours la fin, je vais pas vous spoiler, mais elle va mourir hein, quand même. Hein.
Tu sais que c'est notre lot commun, ça.
Mais pas moi, j'avais pas prévu.
Alors, si on pouvait me dire la date, parce que je m'organise, quoi, j'ai deux, trois trucs à finir.
Ouais, ben voilà, puis j'aimerais pas arriver en retard.
Interlude musical. Bon,
en tout cas, ça a l'air très très bien.
Ouais, c'est chouette.
Un ange aux yeux.
Ah oui, pardon, je vais quand même reprendre. Audrey Hepburn, un ange aux yeux de faon. Jean-Luc Cornette, aux manettes. Au scénario, à l'adaptation donc de la vie de Audrey Hepburn. Agnese Innocente, bienvenue en France, et c'est vraiment un très beau dessin qui m'a au final charmé, alors que j'avais des gros a priori façon ligne claire, je le reconnais. Un joli roman graphique paru aux éditions Glénat, tiens.
C'est ça.
Interlude musical, donc. Yep. The Brian Johnston Massacre.
Ouais.
The Brian Johnston Massacre. Brian Johnston Massacre, Food for Cloud. J'adore ce morceau. On va finir avec quelques rééditions, si j'ai bien compris. On va se faire un petit truc réédition parce que effectivement, il y a de temps en temps, les éditeurs nous proposent de si on avait raté, deuxième chance d'acquérir certains albums.
D'acquérir. Dépend,
enfin,
dépend,
en tout cas,
si
de les avoir. En tout cas, de les avoir des albums qu'on avait peut-être ratés. Alors moi, par exemple, j'ai vu la réédition de Sin City de Frank Miller. Que vraiment je vous conseille, c'est une série.
Le réactionnaire.
Où il a des idées et il a des idées. Voilà, il a des idées, mais il a eu sa grande période, notamment sur la série Sin City, qui a quelques vraiment moi des albums qui ont été des coups de poing, vraiment, et une maîtrise
et du
noir
tendu,
et blanc
et du bras tendu
et une maîtrise du noir et blanc, mon ami, vraiment impressionnante. C'était vraiment le grand Miller au sommet de sa forme. Ouais.
Les nazis maîtrisaient très bien le noir et blanc.
Vous pouvez les retrouver à nouveau. C'est pas les Riefenstahl non plus, faut arrêter, merde.
Beaucoup plus drôle, talk show de Monsieur Fab Caro.
Non, c'est pas drôle.
Un ouvrage qui était déjà paru en 2015 aux éditions Hop là, voilà, mon micro tombe.
Bien fait, c'est une punition divine. Saint Frank Miller t'a puni.
Une réédition d'un titre de Fab Caro qui était paru chez Vite Cocaille en 2015. Voilà. Donc, c'est quoi Talk Show? On y voit une présentatrice, toujours la même, une espèce de tête de speakerine années 70, avec une espèce de choucroute sur la tête, blonde, et qui reçoit successivement tout un tas de femmes et d'hommes, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour le public est nul, voire quasi nul. Mais c'est peut-être ça, et le commentaire est comme le commentaire de la présentatrice est abominable. Et c'est peut-être ça, en fait, que M. Fab Caro voulait dénoncer à travers cet ouvrage, à savoir le néant, le vide abyssal total que l'on peut avoir sur nos petits écrans. Talk show, la couverture est rigolote. On y voit justement cette espèce de présentatrice avec un logo années 70, je dirais, dans une télé vintage. À ne pas manquer, et ça permet de compléter sa l'excellente collection Patakès, puisque c'est dans cette susdite collection aux éditions Delcourt que cet excellent ouvrage de Fab Caro...
Ça souffle un peu quand même beaucoup, là.
Et l'autre avec
t'en as plein la bouche. Hein.
L'autre avec un nazi, pratiquement. Allez-y, vous allez bientôt chroniquer avec Jordan Bardella.
Eh ben écoutez, on dirait que c'est l'ambiance qu'il y a au Grand Prix d'Angoulême, la discussion que nous sommes en train d'avoir. Alors, je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe autour des Grands Prix d'Angoulême. Moi, je m'intéresse quand même au Grand Prix.
La liste des nominés, à part Chumbo, c'est tout ce que je connais.
Moi, je m'intéresse surtout au Grand Prix. Et puis, là, je trouve qu'on a une belle sélection, quoi. Daniel Klaus, Catherine Meurice. Et puis, alors moi, je connais moins Posy Simmons, une Britannique. On peut pas dire qu'on se fout de notre gueule. Donc, la grande question, c'est qui sera le Grand Prix. Alors, vous savez, les votes, c'est un peu compliqué. Apparemment, c'est un peu obscur. Ça serait les gens de la profession.
Je crois que c'est pas si obscur que ça. Faudrait demander à des autrices et des auteurs. Là. Je crois que, comment il y en a à qui on demande effectivement de voter, etc. Donc,
oui, on demande à des gens de voter.
Voilà.
Et c'est pas purement démocratique. C'est une espèce de...
Je crois que c'est un vote. Le problème, c'est que... même si vous prenez un festival de cinéma comme Cannes, par exemple, c'est pareil. Il y a un jury, ou des festivals bien plus modestes, il y a toujours un jury qui est choisi par l'organisation. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Peut-être qu'en fait, Angoulême...
Là, il n'y a pas de jury. C'est un vote.
Angoulême paye le fait aussi qu'il soit hyper célèbre. Et puis, plus tu montes en haut du cocotier, plus on voit ton cul. Et
exactement.
Ça énerve tout le monde.
En tout cas, si vous les intéressez donc, à tout ce qui se passe autour de ces trois noms, allez sur les réseaux sociaux, je vous assure. Ça se bagarre ferme, ça sent l'idéologie à plein nez. Comme quoi, la BD, des fois, c'est sérieux. 469e émission qu'on a essayé de rendre le plus érotique possible. À la semaine prochaine. Bonne lecture, tant qu'on a le droit.